Vous écoutez le podcast On parle de bien-être numérique. Mon nom est Laurie Michel, je suis la fondatrice de Vivala, une entreprise spécialisée dans le bien-être numérique depuis 2019. Notre mission, vous aider à instaurer de saines habitudes autour de la technologie. Dans ce podcast, on discute de la place du numérique dans nos vies, on parle de santé mentale, de performance saine, des impacts sociaux de la technologie, de la déconnexion et bien d'autres sujets dont on entend moins parler. Notre but, s'éduquer, s'outiller, débattre dans la joie et la bonne humeur parce que comme on dit souvent chez Vivala, viva la vida, viva la offline. Merci à Isarta, notre partenaire de visibilité. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale et on va parler d'un sujet qui, je sais, va interpeller beaucoup de parents aujourd'hui. Et oui, vous avez deviné. Je reçois Geneviève Beaulieu-Pelletier. Elle est psychologue clinicienne et ensemble, on va parler donc de cette fameuse gestion des écrans en famille. Bonjour Geneviève.
Bonjour Laurie.
Comment vas-tu?
Je vais très bien, puis très heureuse d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire.
En effet, on va avoir beaucoup de choses à se dire. J'ai une liste de questions, on pourra peut-être pas y passer à travers toutes, mais on va essayer en tout cas de vraiment amener à la fois une réflexion, puis aussi peut-être des inspirations aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais c'est un petit rituel sur le podcast de Vivala, on commence toujours par l'histoire, le parcours de l'invité. Donc, je suis curieuse de savoir quel a été en fait ton chemin de vie pour arriver eh bien, à cette passion de la psychologie aujourd'hui.
Mais je te dirais que je pense que j'ai toujours fonctionné comme une psychologue, dans le sens où l'intérêt pour l'être humain, pour ce qu'on ressent, pour aller comprendre ce qu'il y a derrière nos comportements, je pense que ça a toujours fait partie de ce qui m'interpellait. Donc, dans les choix de carrière, éventuellement, rapidement, ça s'est dessiné. Mais j'ai quand même hésité longtemps aussi entre la psycho ou la communication. Puis je m'étais dit, finalement, ce qui m'a permis de choisir, ça a été de me dire, ben, je vais aller étudier la psychologie parce que ça me parle. Puis éventuellement, si je reviens à la communication, ben, je pourrais communiquer ce que j'aurais appris en psychologie. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, de la communication et de la psychologie, donc comme psychologue. Donc, dans cette vulgarisation-là. Et comme parcours, ben, dans le fond, je suis en bureau privé depuis au-delà de 12 ans, avec, dans l'accompagnement, en fait, d'adultes et beaucoup, beaucoup d'accompagnement de parents. Donc, à travers les enjeux de la parentalité. Donc, c'est sûr que les sujets comme la gestion des écrans, ben, ça fait partie, oui, des préoccupations de ce qui, ce qui est beaucoup dans le discours, dans les réflexions. Donc, c'est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Mais disons, dans le parcours comme tel, il y a eu ce cheminement-là là, d'accompagnement auprès de patients. Puis éventuellement, avec les années, ben, j'ai rajouté aussi de l'enseignement, j'ai rajouté de la recherche, puis éventuellement beaucoup de rédaction, chroniques, entrevues médias. Donc, c'est ce côté-là, vulgarisation, est revenu prendre une certaine place, donc que j'apprécie beaucoup. Donc, je suis très, très passionnée par tout ce que je fais.
En effet, tu as combiné les deux au final, oui. L'aspect, c'est ça, tu disais psychologie, puis communication à travers ton expertise aujourd'hui. Donc, je suis très curieuse de savoir quel est, on va dire, les parents, est-ce qu'ils viennent te voir par rapport à une problématique autour des écrans à la base? Est-ce que c'est une problématique que tu vois vis-à-vis en fait d'un problème peut-être des enjeux dans les communications entre parents-enfants? Est-ce que l'écran est souvent le petit perturbateur?
Ça fait beaucoup partie. Est-ce que c'est le motif principal de consultation? Non. Mais ça vient à ressortir à travers les enjeux. Donc oui, dans cette difficulté de communication, dans la gestion des interactions, la régulation émotionnelle aussi à travers ça, parce qu'il y a quelque chose de très frustrant pour l'enfant, pour le jeune, ça vient à être carrément de la régulation, puis de vraiment cette exploration de mais comment est-ce qu'on va arriver en famille à adresser cette problématique-là? Donc, c'est un des éléments déclencheurs, un élément frustrant parmi d'autres. mais on voit qu'il revient, tout à fait. Et je rajouterais aussi, j'ai l'occasion de faire des conférences aussi sur l'hyperconnectivité auprès de parents. Et ça interpelle. Donc, les parents sont interpellés par cette problématique-là, viennent écouter et ils sont à la recherche, je dirais, vraiment d'un secours en disant, mais dites-moi quoi faire, je ne sais plus. Donc, on voit aussi cette détresse-là. Puis, je pense qu'il faut la nommer comme ça. C'est pas juste, je suis inquiet. Par moment, ça va déborder le parent. Le parent ne sait plus comment s'y retrouver et ça devient très difficile aussi comme parent de réguler nos propres émotions. Donc, il y a les émotions du jeune, mais il y a aussi les émotions du parent qui est en jeu et éventuellement, ben, de toute la famille.
Oui, ça me fait rebondir d'ailleurs sur une question par rapport à cette culpabilité que certains parents peuvent avoir hein, vis-à-vis de la gestion des écrans. Il y a comme le rôle du parent est censé donc d'éduquer les jeunes, éduquer à une certaine pratique aussi de la technologie. Puis moi, je le vois sur le terrain, il y a un véritable enjeu des adultes autour de la gestion des écrans. Donc, il y a comme tu le mentionnais, une détresse de la part des parents, puis une culpabilisation parfois aussi. Tu le vois aussi de ton côté vis-à-vis de comment ils peuvent adresser ce problème-là avec leurs enfants aussi.
Ah, oh, tout à fait. Il y a une culpabilisation, je dirais, de différents ordres. Il y a le fait de sentir que, ben, comme parent, on est supposé être la personne qui va structurer, qui va amener le cadre, les limites, qui va pouvoir offrir à son jeune ce qu'il y a de mieux en termes de ressources pour qu'il puisse se développer. Et là, il y a cet enjeu par rapport aux écrans qui vient faire en sorte que, comme parent, on se sent parfois impuissant, dépassé, on ne sait plus. Donc, il y a cette culpabilité de ne pas y arriver. Cette culpabilité de laisser plus de temps à son enfant. Ça peut commencer très jeune, hein? Un parent qui, par exemple, se dit, bon, pour la préparation du souper, OK, petite émission. Puis, c'est comme si à petite dose, OK, on se le permet. Mais quand c'est utilisé pour avoir un peu plus de temps, là embarque la culpabilité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est correct? On se compare. Il y a les autres parents autour qui sont peut-être en train de dire, hey, non, moi, là, après 20 minutes, après une demi-heure, après une heure, c'est assez, c'est important. Et là, on se met comme parents à se comparer, à faire, oh, moi, je les ai dépassés les 15 minutes, j'ai dépassé l'heure. Et là, cette comparaison-là aussi devient très difficile. Donc, il y a la culpabilité, il y a la honte aussi qui peut se rajouter par moment de dire, mais toi, j'y arrive pas, là. C'est comme si cette impuissance-là fait en sorte que je peux me sentir ne pas être suffisamment bon comme parent. Je vais beaucoup entendre dans le discours des parents cette idée de mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est comme ça. On est rendu dans une société qui fonctionne comme ça. Les jeunes, c'est à ça qu'ils sont exposés. Donc, ça met le parent dans un rôle très difficile. Un rôle aussi où on se sent plus compétent et où justement, il y a la culpabilité de, au final, ne jamais être à la hauteur. D'avoir l'impression de ne pas bien faire. Si je laisse trop le temps, c'est pas bon. Si j'en laisse pas assez, mais mon enfant s'ennuie. Je fais quoi? Donc, j'ai l'impression, au final, de ne pas être un suffisamment bon parent à travers cet accompagnement-là, du jeune.
C'est vraiment super intéressant ce que tu mentionnes aussi par rapport à cette espèce de comparaison que les parents, ils rentrent en compétition en fait avec d'autres parents qui pourraient comme mieux le gérer vis-à-vis de leur perception à eux aussi. C'est ça que tu que
Oui, exactement. Donc, il y a la comparaison du temps d'écran, il y a la comparaison de, ah, qui va offrir un cellulaire, à quel âge, à son enfant? Puis là, si on est un parent qui a attendu un peu plus, hein, il y a quasiment, on peut quasiment avoir une fierté de se dire, hey, moi, mon enfant ne l'a pas encore, cet appareil-là, par exemple. Et cette comparaison-là, au final, malheureusement, ne sert pas ni le jeune, ni le parent, parce que on aurait beaucoup plus avantage à le réfléchir, j'aurais envie de dire d'une façon macro, d'une façon beaucoup plus large en société. Parce que, imaginons notre enfant à qui on met une structure d'écran, par exemple, à la maison, un nombre d'heures, ou tu sais, il y a un encadrement qui est là. Il a, par exemple, son cellulaire, va chez un ami. Mais la structure de l'autre famille va être différente. Le cadre va être différent. Donc, j'envoie mon jeune avec son téléphone. D'une certaine façon, je donne à ce moment-là la responsabilité à l'autre parent. Si on parle peut-être aux primaires, jeunes ados aussi, donc d'une certaine façon, je transmets cette responsabilité-là à l'autre parent. Et au final, qu'est-ce que je suis en train de créer? C'est qu'il y a, il y a une comparaison. Si l'autre parent est peut-être dans un cadre un peu plus lousse, une plus grande tolérance, passe plus de temps, là, finalement, le jeune revient et dit, hey, chez l'ami, ça se passe autrement. Eux peuvent faire plus de temps. Mais le parent, lui, ce qu'il voit, c'est, ah ben, on m'a envoyé un jeune avec son téléphone dans les poches. Donc, ça veut dire que chez lui aussi, il y a une certaine ouverture. Donc, tous ces petits éléments-là font en sorte que j'ai l'impression que pour beaucoup de parents, il y a une recherche de repères. On ne sait plus. On essaie de se comparer aux autres aussi pour savoir qu'est-ce que ça devrait être. Est-ce que mon enfant à cet âge-là devrait avoir un téléphone? Est-ce que mon enfant devrait passer autant de temps? Et donc, ces éléments-là, on essaie de se comparer pour, au final, trouver des repères, trouver des balises. Donc, quand je parle d'une réflexion sociale, c'est ça aussi. Ça peut être une réflexion plus au niveau de la communauté proche, donc la communauté des quelques amis, par exemple. Mais cette comparaison-là ne sert pas, ni nous permet d'essayer de nous situer comme parents. En même temps, c'est comme si c'est pas réconfortant, c'est pas rassurant. Donc, je vois vraiment en bout de piste là cette impuissance-là et ce besoin d'être rassuré, ce besoin de savoir qu'est-ce qui est bon pour mon jeune. Mais au-delà de ça, quand on a ces informations-là, on n'arrive pas nécessairement à l'implanter dans le fonctionnement familial. Et ça, c'est tout un défi aussi, là.
Alors, il y a deux questions qui me viennent par rapport à ce que tu mentionnais, notamment l'enfant qui va donc chez une autre famille. Est-ce que ce serait intéressant pour les parents d'avoir comme une discussion entre eux au lieu de se comparer, mais plutôt y aller de façon constructive, donc peut-être partager comment ils gèrent la technologie avec leurs propres enfants, puis comme élaborer certaines règles peut-être quand les enfants de un viennent dans la famille puis quand les enfants de l'autre viennent dans la famille, parce que de ce que tu mentionnes, j'ai comme l'impression qu'il y a des enfants qui vont rentrer à la maison en disant hey chez Justine je sais pas sa maman
Oui,
eh ben on
oui.
peut jouer aux jeux vidéo sans s'arrêter, on mange
Exact.
devant avec la pizza
Oui.
puis il y a de la sauce tomate partout sur sur le téléphone, donc après ça va être difficile à gérer ça à la maison aussi.
C'est exactement ça. Alors oui, on a intérêt à discuter ensemble. De trouver un compromis aussi. Ça se peut que ça soit pas exactement pareil d'une maison à l'autre, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut avoir des repères communs? Peut-être des façons de fonctionner, qui vont se ressembler ou à tout le moins dont on va être, conscient. Il me vient en tête un exemple. Si dans une famille, par exemple, on se dit, OK, après 8h30, 9h, c'est le couvre-feu, on enlève les écrans, on enlève les écrans des amis aussi. Donc, c'est la règle, par exemple, dans la famille. Si l'ami en question est habitué d'avoir son téléphone en tout temps, parce qu'on le voit, hein, les habitudes familiales d'une famille à l'autre, c'est très, très, très différent. Et si on a l'ami qui dit, oui, mais moi, c'est pour rester en contact avec mon parent, pour lui souhaiter bonne nuit, par exemple, ou peu importe. Mais si c'est discuté avant, si le parent sait que non, après 9h, il n'y aura pas de texto de son enfant, que s'il y a quoi que ce soit, qu'il nous contacte, nous. Donc, juste de nommer comment ça va fonctionner quand son enfant va venir chez nous, juste ça. Ça peut faire une différence. Premièrement, on est au courant et peut-être même que ça va influencer d'une certaine façon le fonctionnement chez l'autre famille. Si quand ils viennent ici, il n'y en a pas d'écran, ben peut-être que ça va être la même chose éventuellement quand il y aura échange d'enfants, justement. Alors, même si c'est pas le cas, au moins en discutant à l'avance, ben il n'y a pas de surprise et on donne aussi nos couleurs comme famille. Est-ce qu'on peut dire, ça c'est une question qui je trouve qui est très importante aussi, est-ce qu'on peut arriver et dire à un autre parent, par exemple, mon jeune va dans une autre famille, arriver avec nos propres règles? Est-ce qu'on peut imposer, dire, moi je ne veux pas que mon enfant joue plus qu'une heure, par exemple, aujourd'hui? Ça, c'est très délicat parce qu'on arrive dans la culture familiale de l'autre famille qui a ses habitudes. Donc, on peut, oui, ouvrir la discussion. On peut discuter de ben, à quoi ça ressemble, puis de dire, par exemple, que notre jeune, ben, le téléphone, oui, là, c'est par exemple dans la période de jeu, mais qu'ensuite, on préfère que le téléphone soit, par exemple, dans son sac ou soit dans une station de recharge. Ou, on peut discuter de ça, mais on ne peut pas non plus imposer à l'autre famille. Ça serait l'équivalent de dire, je ne veux pas qu'il fasse de jeux de société, par exemple, ou je veux pas qu'il aille jouer dehors. Donc, il y a aussi ce respect-là à avoir parce que on ne veut pas non plus créer de la culpabilité à l'autre famille, à l'autre parent. Si je dis, moi, je ne veux pas que mon enfant joue plus que tant, c'est correct, c'est une information, mais en même temps, on est aussi en train de dire, ben toi, t'es 4 heures par jour, moi, ça ne me convient pas. Puis, alors, soit que c'est fait dans une discussion qui est très ouverte et respectueuse, soit qu'on peut mentionner un peu comment nous, on fonctionne, mais on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre famille suive nos propres règles non plus. Ça revient aussi à notre choix de dire, ben comment. Si par exemple, on trouve qu'il y a une autre famille qui utilise beaucoup, beaucoup les écrans, ça va être à nous aussi à voir, à doser par exemple. Peut-être, oui, je peux quand même envoyer mon jeune, mais peut-être que je le laisserai pas 4 jours chez son ami, hein? Bon, là, j'exagère un peu, mais tu sais, il y a peut-être un temps qu'on va vouloir laisser par exemple. On va peut-être doser ou ponctuer un peu plus les visites. On va peut-être inviter davantage cet ami-là aussi chez nous. Donc, il y a des façons aussi d'être créatif à travers ça, tout en respectant le rythme des autres parents. Parce que, je reviens sur cet élément-là de la culpabilité parentale, chaque parent à l'ère actuelle là, essaie de faire de son mieux. Puis une famille où l'utilisation des écrans est plus présente, l'idée c'est pas non plus de diaboliser tout ça. Et quand on ouvre le dialogue, on se rend souvent compte qu'il y a cette impuissance-là, cette idée de je ne sais pas, hein, je ne sais pas comment mettre cette structure-là. Donc si on fait juste rajouter à la culpabilité d'un autre parent, c'est pas non plus aidant au final.
Dans les parents qui viennent te voir, est-ce que tu notes une différence entre, on va dire, les parents d'un certain âge, donc une certaine génération qui serait peut-être moins emballée à l'idée de donner les écrans, par exemple, à leurs jeunes, versus peut-être les plus jeunes générations qui sont presque nées avec Internet ou qui ont eu quand même des outils numériques très rapidement dans leur jeunesse et qui seraient plus ouverts. Est-ce qu'il y a un profil vis-à-vis de ça générationnel? Est-ce que tu l'observes?
J'aurais tendance à dire que le profil générationnel, peut-être que je peux dégager, se situe peut-être dans ce qui est consommé, ce qui est toléré ou ce qui est bien reçu. Donc, par exemple, consommer des émissions, par exemple, consommer certains types de jeux. C'est comme une plus grande tolérance parce que c'est ce que comme parents, on a vécu à une autre génération. Donc, il y a tous ces, d'abord des souvenirs, il y a ces repères-là. Tout ce qui est, par exemple, tous les nouveaux jeux, les nouvelles plateformes aussi, les réseaux sociaux. Quand, comme parent, je ne connais pas, je peux me sentir plus impuissant, ça peut être plus menaçant parce que ce n'est pas du connu. Alors, ça peut faire plus peur. Quelqu'un qui a vraiment pataugé très rapidement dans tout ça peut peut-être avoir moins peur, ne serait-ce que dans tout ce qui est sécurité, dans comment ça fonctionne, dans comment accompagner aussi le jeune à travers sa consommation d'écran. Alors ça, on en revient à cet accompagnement-là, ça va différer beaucoup. Et puis j'aurais tendance à dire que Oui, le fait d'être informé, de comprendre tout ce qui est électronique, tout ce comprendre ce que notre jeune est en train d'utiliser et de consommer, c'est vraiment un facteur très, très marquant sur comment je vais intervenir auprès de mon jeune. Donc, il y a des attitudes très différentes qui vont émerger. On sait que quand comme parents, on est dans une attitude, en général, même si on enlève l'idée des écrans, mais là, on s'en parle aujourd'hui par rapport aux écrans, mais on peut l'étendre de façon beaucoup plus large. Mais quand on est dans une attitude plus contrôlante, quand le jeune a très peu de choix, quand il se sent peu autonome à travers ça, donc il va agir plus par pression ou par punition, ou ça, c'est un contexte qui est moins favorable d'abord à son apprentissage, aussi à son bien-être à travers ça. Alors, c'est sûr que si je ne connais pas ce qu'il utilise et que ça me fait peur et que je me sens comme parent impuissant à essayer de comprendre tout ça, il y a fort à parier que je vais peut-être aller davantage vers un encadrement qui va être plus contrôlant. Il y a une grande différence entre structure et contrôle. Structurer la consommation des écrans, c'est très important. Avoir une structure familiale sur comment est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on utilise, à quel moment on utilise, c'est fondamental. Mais le contrôle, ça, c'est différent. C'est vraiment de sentir que le jeune, ce qu'il va consommer et comment, et il y a une pression là, qui est exercée. Et il n'apprend pas non plus à travers ça à faire ses propres choix. Il n'apprend pas pour quelle raison aussi c'est important cette structure-là. Donc si, par exemple, si on utilise les écrans comme étant une récompense ou une punition, ben, pour un comportement, par exemple, donc si tu fais bien ton ménage, tu auras droit à des écrans ou tu n'auras pas le droit à tes écrans si tu as tel comportement que je ne veux pas voir, par exemple. Là, on n'en vient pas à comprendre pourquoi c'est important de bien consommer d'une façon équilibrée les écrans. On est plus dans un aspect de ben, agis bien, sinon tu vas avoir une punition. Donc, on ne se concentre pas sur transmettre à l'enfant. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de consommer d'une façon équilibrée? Pourquoi c'est important de s'informer aussi sur l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux? Pourquoi c'est important de faire attention aussi en termes de sécurité? Pourquoi c'est important de ne pas passer tant d'heures ou à consommer tel type de contenu? C'est ce qu'on souhaite comme parents, c'est pouvoir avoir cette ouverture au dialogue, cette ouverture pour être capable d'accompagner notre jeune dans sa réalité qui inclut l'utilisation des écrans. Donc, on ne peut pas en ce moment se dire comme parent, je vais élever mon enfant en dehors des moyens technologiques. Ça fait partie de leur quotidien. Ils vont à l'école, ils utilisent ces ressources-là. Donc, comme parent, on a énormément d'avantages d'abord à les apprendre, à les connaître. Puis ça me mène à penser à s'intéresser à ce que notre jeune va consommer. Parce qu'on est beaucoup dans, oh, il passe beaucoup d'heures hein, là-dessus, puis je suis pas capable de l'arrêter. Mais est-ce qu'on s'est assis à côté de lui pour voir c'est quoi le jeu auquel il passe tant d'heures, puis qu'il absorbe, puis qu'est-ce qu'il vit à travers ça? Ou par exemple, les vidéos qui vont être regardées. Des fois, on peut passer à côté, entendre, faire comme, ouf, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces vidéos-là? De fait, c'est pas ce que nous, on regarderait nécessairement, mais est-ce qu'on peut s'intéresser? Ça, c'est un élément qui va être très, très important. Parce que d'aller s'asseoir à côté de notre jeune, puis peut-être, s'il est en partie, c'est pas le temps, là, d'aller lui demander comment ça marche, là, et ça, laissons-le finir sa partie. Ça, clairement. Mais ça nous permet quand même de s'ouvrir, éventuellement, même peut-être d'apprendre à jouer si on parle de jeux vidéo, par exemple, ou de partager certaines vidéos avec notre jeune. Pas dans l'optique de dire je vais regarder la même chose, mais plus dans le sens de est-ce qu'on peut partager ce moment-là, comme quand s'il a un intérêt, par exemple, à faire du bricolage, ou quand il était plus jeune, le dessin, puis que ou le carré de sable, on allait jouer avec lui. Donc, est-ce qu'on peut continuer à s'intéresser? Bon, ça se peut que notre jeune n'ait pas envie qu'on s'assoie à côté de lui pour aller jouer au même jeu. Ça se peut, puis ça, on peut respecter. Mais c'est là où je parle de s'intéresser. Tu n'es pas obligé de le faire. Est-ce que je peux m'intéresser, connaître, savoir qu'est-ce qu'il va rechercher à travers ça? Parce que je trouve que ça nous ramène beaucoup, beaucoup aux besoins psychologiques fondamentaux qui sont importants pour tout le monde, importants à satisfaire au quotidien. On le voit beaucoup là, à travers la littérature, la recherche, comment les trois besoins psychologiques fondamentaux qui ressortent systématiquement à travers les cultures, à travers les époques, à travers les âges. On a le besoin de connexion, donc d'appartenance, de sentir que je suis connectée aux autres, j'ai des liens significatifs, je suis partie d'une communauté. Il y a l'autre besoin qui est celui d'autonomie. Hein, j'en parlais, la différence, l'inverse serait le contrôle. Hein, l'autonomie de pouvoir faire les choses parce que ça... Je sens que c'est moi qui le choisis. Ça me ressemble. Je fais les choses de façon authentique, cohérente avec qui je suis, et non pas par obligation, parce que je le fais pour une punition, une récompense ou pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple. Le troisième besoin, c'est le besoin de compétence. Donc, sentir que je maîtrise mon environnement, que j'ai des habiletés aussi que je peux développer. Pourquoi je parle de ça? C'est que on est comme être humain porté à aller les satisfaire ou à rechercher à les satisfaire. Quand je satisfais mes besoins psychologiques, je nourris mon bien-être. J'ai moins de symptômes psychologiques aussi. C'est drôlement important. Donc, quand je m'intéresse à ce que mon jeune va chercher à travers les écrans, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il est en train d'essayer à sa façon de satisfaire ses besoins psychologiques à travers ça. Est-ce que ça fonctionne? Pas toujours. Mais un jeune qui va jouer en ligne, il est en contact avec d'autres jeunes. Donc, il est dans ce besoin de connexion-là. Peut-être qu'il échange dans un chat ou même en audio avec ses amis en même temps. Il se crée un personnage qui va entrer en relation avec un autre personnage. Donc, il est en train d'essayer de satisfaire son besoin de connexion. L'autonomie, ben, je peux choisir mon jeu, je peux justement choisir mes personnages, je peux choisir mes outils, mes instruments. Quand je regarde une émission, ben, je choisis ce qui me représente, ce que j'ai envie peut-être d'apprendre également. Donc, le jeune va beaucoup rechercher à travers les contenus qu'il va consommer à tenter de satisfaire ses besoins psychologiques. Est-ce que ça va fonctionner? Pas toujours. Puis il faut toujours s'intéresser à est-ce que c'est au détriment de le satisfaire autrement dans sa réalité. Si finalement il s'est tourné vers, par exemple, les jeux vidéo pour connecter d'une façon virtuelle, puis qu'il y a de la difficulté à connecter avec les jeunes, par exemple, de la classe, que nous, peut-être qu'en famille, on connecte peut-être moins ces temps-ci, il y a peut-être plus de conflits, c'est plus difficile. Donc, je trouve que ça, c'est un élément important de voir les écrans en ce moment lui servent à quoi? Qu'est-ce qu'il va rechercher? Il y a peut-être du positif pour lui. Et si c'est plutôt un signe d'un symptôme, ben donc ça mène à la réflexion, mais comment donc dans sa vie en dehors des écrans, on peut voir à satisfaire ses besoins psychologiques? Est-ce que on peut prendre plus de temps ensemble justement pour connecter? Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent venir peut-être plus régulièrement? Est-ce qu'on peut instaurer différentes activités où il se sentirait ben, interpellé, où justement son autonomie serait mise de l'avant, il pourrait développer des habiletés? Donc, je trouve que ça amène vers une réflexion beaucoup plus large quand on commence à s'intéresser à qu'est-ce que mon jeune regarde? Qu'est-ce qu'il fait sur ces différentes plateformes-là?
Super, super intéressant, super pertinent en effet. Puis j'aime beaucoup que tu ajoutes le côté harmonie en fait dans le style de vie aussi de l'ado, dans le sens où c'est pas parce qu'il va passer une heure sur un jeu en ligne que ça va complètement c'est ça venir perturber le reste de sa vie. Donc vraiment toujours trouver comme ça devient une activité au final. Donc faut le comprendre et pas le passer dans le côté punitif pour vraiment essayer d'aider aussi le futur adulte à gérer cet accès-là au web, puis parce que ça aussi, hein, c'est une façon aussi de l'éduquer à du demain pour qu'il
Tout
puisse
à fait.
aussi dans la sphère du travail, dans la sphère personnelle, pouvoir bien gérer la technologie dans le fond. Tu as parlé aussi d'aspect punitif. Et il y a une question qui est arrivée dans ma tête pendant que tu parlais de ça, qui va être peut-être dirigée plus vers les parents avec des jeunes enfants. Puis c'est une petite tranche de vie, mais on donne un téléphone, par exemple, à un jeune enfant qui a, je sais pas, 3, 4 ans, et on lui dit que c'est terminé son temps d'écran, puis on le lui prend des mains et l'enfant commence à faire une crise de colère, à pleurer toutes les larmes de son corps à cause du téléphone. Les parents sont pas mal en détresse, hein, avec ce genre de comportement parce qu'ils comprennent pas pourquoi l'enfant réagit autant vis-à-vis de l'écran. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour, on va dire, aider le parent à mieux gérer, à éviter ce genre de crise ou à gérer aussi la crise quand elle se présente?
Oui, mais en fait, l'attitude qu'on va avoir ou ce qui peut aider va évidemment, oui, varier en fonction de l'âge. Mais peut-être ce qu'on peut dire comme facteur déjà commun, quand je parle d'établir une structure d'écran, ça commence très tôt, ça commence très jeune et ça évolue dans le temps. Donc, la structure qu'on va mettre à 3 ans sera pas la même que celle que je vais mettre à 12 ans. Mais une structure, c'est aussi quelque chose qui se développe en famille, qui se parle et qui se dit d'avance. Donc, de savoir à l'avance j'ai combien de temps. C'est sûr qu'à 3 ans, c'est pas tout à fait clair. Le 15 minutes, ça fait combien de temps? Donc, c'est là où, par exemple, des sonneries vont pouvoir être utilisées. On met une minuterie ou on met des sabliers ou des repères visuels tranquillement qui nous permettent de savoir qu'il y a un temps défini. À noter aussi que quand on est sur les écrans, la notion du temps, là, peut vraiment être influencé. Donc, on peut perdre un peu cette temporalité-là. Donc, ces repères-là visuels ou auditifs peuvent nous aider. J'aurais tendance à dire aussi d'aviser un peu avant la fin. C'est la même chose qu'un enfant qu'on amène au parc. On lui dit quelques minutes d'avance, par exemple. On y va dans 5 minutes. 5 dernières minutes. C'est le temps là, de faire les dernières activités que tu voulais, puis peut-être 2 minutes avant, tu as peut-être le temps d'un dernier jeu, tu veux lequel? On avise. Alors, c'est la même chose avec les écrans, de dire aussi, il reste tant de temps, ou juste ce petit avertissement-là peut faire une différence, parce qu'émotionnellement, c'est comme si je suis en train de faire un lien entre il y a du temps, ça va se finir. Frustration, je suis pas bien. En même temps, j'ai aussi le temps. J'ai par exemple un 5 minutes pour décortiquer tout ça, pour le traiter cognitivement, émotionnellement. Donc ça, c'est rien de majeur. Je suis pas en train de donner un truc magique. Tout ce que je suis en train de faire, c'est simplement de dire, donner cette information-là, émotionnellement, ça peut être aidant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de le mettre dans un cadre plus large. Par exemple, si je donne à mon jeune enfant un 15 minutes, mais il était ancré dans quoi ce 15 minutes-là? Par exemple, est-ce que c'était, ben, je te donne le téléphone, le temps de ton émission, puis ensuite on va faire tel autre jeu, ou ensuite ça va être le souper. Donc il y a cette temporalité-là, il y a ces repères-là, on sait ce qui vient ensuite. C'est pas je me fais enlever ma stimulation, puis là tout d'un coup, je sais plus quoi faire, je ne sais pas ce qui s'en vient. Ce qui peut être très frustrant en se disant tu m'enlèves quelque chose que j'aimais bien. Puis là, il n'y a rien devant moi. Donc, ça peut être aussi très pertinent de pouvoir l'ancrer un peu dans la journée. Pour les plus jeunes, ce qui peut aider, une émission, par exemple, très fixe, qui a un 20 minutes, par exemple, ou un 22 minutes, peu importe, quand elle est finie, elle est finie. C'est plus facile que d'arrêter, de donner un temps arbitraire qui va arrêter en plein milieu d'une émission, même comme adulte. Si tu me fais ça, j'aimerais pas ça.
Moi non plus.
Je regarde pas beaucoup nécessairement, mais si tu me donnes le temps de regarder ce que j'aime, viens pas me couper en plein milieu. Ou si tu m'as vraiment donné un cadre très très précis, dis-moi d'avance que aujourd'hui, je vais avoir le temps juste de regarder la moitié de mon épisode, puis que demain, j'aurai le temps de le terminer. Donne-moi comme parent, hein, à moi, enfant, ces outils-là pour me situer. Parce que sinon, tu fais juste me frustrer, puis je sais pas quand je vais le finir, je sais pas ce qu'on fait. Donc ça peut être très, très aidant. Si malgré tout ça, il y a vraiment un très, très grand élan là, de colère, une manifestation plus intense, c'est pas le temps pendant ce temps-là de réélaborer notre structure, puis il y a une frustration qui doit être vécue. On pourra y revenir après. On pourra préparer la prochaine fois, la prochaine période d'écran. Là, on va être plus dans accompagner notre jeune à tranquillement s'apaiser, à trouver une façon de transformer sa frustration. Oui, je comprends que c'est frustrant. T'sais, oui, tu aurais voulu continuer. Mais là, on s'était dit que c'était un épisode. Là, l'épisode est terminé. On s'en va faire telle activité. Viens me rejoindre. Prends le temps de décanter un peu, puis tu viendras me rejoindre quand tu seras prêt. Et on en reparlera plus quand tout le monde aura calmé ses esprits. Quand on est sous le coup de la colère, c'est pas là où c'est le temps d'être beaucoup dans l'intellectuel, puis dans dans réélaborer tout ça. On le fera dans un après-coup.
Merci mille fois, Geneviève. Écoute, c'était vraiment une discussion absolument très très importante. Je pense que tous les parents devraient t'écouter aujourd'hui parce que c'est vraiment très pertinent. Puis j'ai adoré notre temps ensemble. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous visiter, me visiter sur le
Ben
podcast
oui.
de Viva là. Merci beaucoup. Je veux dire, tu as partagé plein de belles pistes de réflexion, puis de pistes aussi d'action, solutions pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, un grand merci à toi.
Mais écoute, ça a été un plaisir. Je pense on aurait pu en parler très longtemps. Puis, tu es peut-être de garder en tête, effectivement, cette idée que c'est pas facile comme parent, mais qu'il y a moyen de pouvoir s'intéresser, d'accompagner notre jeune et qu'à travers ça, c'est ses intérêts, c'est l'adulte qu'il est en train de devenir. Hein. Donc, intéressons-nous à ce qu'il est à travers ça. Puis, comme parents, ben, on fait aussi de notre mieux. Donc, de tasser la culpabilité autant qu'on le peut, hein, évidemment. Donc, un grand merci à toi.
Sur ces belles dernières phrases, je vous laisse et je vous retrouve donc pour un nouvel épisode la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis vive à la offline, à la semaine prochaine.